La médiumnité, j'ai commencé à la vivre à l'âge de 7 ans enfant, par des phénomènes différents au niveau médiumnique, c'est-à-dire par des apparitions multiples et variées de visages d'esprits qui apparaissaient dans ma chambre. En départ, c'était d'abord l'apparition d'un esprit qui s'est pendu dans la maison de mes parents, mais avant qu'eux n'habitent là, donc on l'a su plus tard, évidemment. Ensuite, il y a eu des phénomènes donc de clairaudience, de vision également concernant la famille sur le devenir. Ça, c'est de la clairvoyance. Et le niveau du contact spirituel médiumnique, c'était vraiment très jeune, à 7 ans enfant, et qui a progressé avec le temps et les années. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, j'ai vécu une forme d'initiation, on va dire, avec le monde de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils m'ont montré des choses, ils m'ont, on va dire, formé quoi, au développement des manifestations qui ont été vraiment constitué de différents phénomènes, quoi, c'est-à-dire des matérialisations, des touchés, des ressentis particuliers. Au début, c'était intéressant, c'est que je pensais que c'était naturel, le côté médiumnique donc du contact et des phénomènes que je pouvais vivre, parce que souvent je disais à mes camarades d'école et mes cousins également que j'avais des images la nuit, quoi, voilà, ou des apparitions extérieures à moi. Et pour moi, c'était un peu comme un écran de cinéma, quoi, finalement. Et puis ils me disaient, mais c'est quoi, tu vois quoi? J'ai dit, non, c'est pour moi, je vois ça. Et eux, ils ne me croyaient pas au départ. Donc, si bien que finalement, au départ, on m'a dit, ouais, c'est un sorcier et tout ça, étant jeune. Non, c'était le démarrage, quoi. Et après, on se rend compte qu'on est différent. Mais c'est les autres qui amènent une différence. Ce n'est pas soi-même qui l'avons, cette différence, c'est les autres. Au fur et à mesure, il y a eu également d'autres phénomènes. C'est-à-dire qu'à la maison, chez mes parents, il y avait des déplacements d'objets, il y avait des bruits, ce qu'on appelle des raps, des coups frappés. Ou des bruits de pas de gens qui couraient dans un escalier, par exemple. Donc, on se pose des questions quand c'est comme ça, c'est normal. Donc, on est un peu surpris, moi-même et la famille, forcément. Et donc, après, on cherche à comprendre. C'est-à-dire qu'on a été voir également un prêtre, également, pour voir. Et puis, bon, le prêtre n'a rien fait de spécial, hein. Sauf un autre prêtre, une fois que j'ai rencontré un peu plus tard, quand j'avais, moi, 17 ans et demi à peu près, lui, il m'a dit, vous êtes possédé, qu'il m'a dit. Et je dis, non, monsieur, mon père, je suis pas possédé. C'est des phénomènes que je vis, mais je ne sens pas d'agressivité négative par rapport à ça. Donc, j'ai appris finalement, au fur et à mesure, à grandir sur un plan spirituel avec ces phénomènes-là. Voilà, c'est un parcours, on va dire, de vie, hein, dans l'ensemble.
Il y a eu toute une éducation avec l'invisible au niveau de ce voyage hors du corps. Au départ, j'avais un apprentissage où le bas du corps se soulevait et pas le haut du corps. Et après, c'était le contraire et ça a duré pendant 2 ans, comme ça, 3 ans. Il y a eu un apprentissage, je dirais, sur le plan vibratoire énergie. Et la véritable décorporation, en fait, s'est effectuée à l'âge de 19 ans. Un jour, j'étais parti avec des amis. Et nous étions partis faire du camping. Et là, à ce moment-là, nous étions couchés depuis très peu de temps. Et j'ai commencé à sortir hors de mon corps et me suis retrouvé le corps spirituel sortant à moitié de la toile de tente, toute la moitié du corps spirituel, je parle. Et là, j'ai pu voir en extérieur des voleurs, des cambrioleurs qui essayaient d'attaquer notre voiture, de pouvoir donc la cambrioler. Et je suis retourné dans le corps physique, et là, j'ai ouvert les yeux, et j'ai dit à mes amis, il y a des voleurs près de la voiture. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un cauchemar, là. J'ai dit, et là, je réalise en même moment, en fait, ce que je venais de vivre. Donc, c'est de sortir du corps. Et on est sorti, effectivement, c'était réel, c'était bien ça. Voilà une des premières expériences tangibles hors du corps.
Donc j'ai vécu donc depuis très jeune avec ces phénomènes-là, et puis j'ai voulu faire un métier également que j'ai exercé plus tard, donc c'est-à-dire que costumier théâtre cinéma télé, donc avec différents diplômes. Et puis donc je suis rentré dans ce métier-là, j'ai vraiment vécu une passion, on peut dire, et réalisé beaucoup de costumes pour différents films, cinéma, même pour la télé, pour Guy Lux et j'en passe. Et donc en même temps, je continuais bien sûr à vivre ces expériences dites médiumniques. Et entre-temps, j'ai rencontré donc après des médiums. Et puis Monsieur André Dubard, qui était ingénieur et en même temps chercheur dans ces sciences-là, ces connaissances, et donc qui m'a testé et qui m'a pris sous son aile avec une amie, Nicole Leprince, qui est devenue une amie plus tard. Et donc après, j'ai commencé en public très jeune, mais sans quitter mon métier. Donc je faisais des conférences et prestations médiumniques et en même temps mon métier donc de costumier. Et au fur et à mesure, eh bien, l'au-delà m'a demandé d'arrêter complètement mon travail pour pouvoir aider les gens entièrement, sachant qu'étant plus jeune, j'avais eu un esprit familier qui est venu et qui m'a dit, plus tard, tu auras beaucoup d'âmes à aider, notamment des parents qui perdent des enfants, qui viendront vers toi. Bon, quand on est jeune, on n'a pas du tout envie de faire ce genre de choses et d'écouter ça. Hein. On s'est dit, plus tard, moi je veux bien, mais pas maintenant, quoi. Et puis voilà, donc le fait est que force, on est obligé de dire, ben voilà, faut qu'on y aille, parce que comme j'ai le don, entre guillemets, la capacité d'avoir ces contacts-là depuis très jeune, eh bien, je ne voulais pas non plus être coupé de ce plan-là, parce que c'est une partie intégrante de ma personne. Dans mon cas précis, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Tu stoppes ton travail ou on coupe. Ça sous-entend, on coupe ses contacts spirituels médiumniques. Mais comme je vivais avec cela, je ne pouvais pas me passer de ça non plus. Voilà. Donc, j'avais déjà commencé en public, mais accepter d'arrêter entièrement mes activités pour ça, c'était pas facile pour moi, très dur. Mais finalement, le jour où j'ai dit oui et j'acceptais, ma vie a complètement basculé.
Retour sur le plateau de Tout est possible, toujours en compagnie d'Elie Kakou, et nous allons poursuivre notre dossier concernant le dialogue avec les morts, le dialogue avec l'au-delà. Nous allons tenter sur ce plateau une expérience qui risque d'être très impressionnante. Je vous demande d'accueillir notre invité suivant, il s'agit d'Henri Vignaud. Alors Henri, vous allez peut-être nous expliquer rapidement ce que vous allez faire dans cette expérience, rapidement parce que vous êtes concentré un peu sur le public pendant la pause de pub, donc pour pas vous déconcentrer, en quelques mots, que va-t-il se passer?
Donc je vais expérimenter donc des flashs de voyance sur les personnes qui m'attireront le plus en tous les cas. Et puis en fonction de cela, j'aurai sûrement des communications spirites médiumniques par rapport à différents défunts qui concernent donc les gens ici présents sur le plateau.
Autrement dit, vous allez parler avec des personnes décédées proches des gens sur ce plateau.
On va essayer en tous les cas.
Je vous en prie, allez-y.
Je suis attiré par la dame qui a le pull vert devant moi. Excusez-moi de me diriger ainsi par rapport à les doigts. Mais c'est curieux, madame. Est-ce que vous avez eu récemment comme un choc émotionnel ou une déception importante récente?
Non.
Non, excusez-moi, mais bon, comme j'ai l'énergie qui m'attire quand même vers vous, donc on va voir pourquoi, mais je ressens une personne qui... Attendez, avez-vous connu quelqu'un qui a été en fauteuil roulant, madame, qui a été paralysé du moins, ou qui a été bloqué?
Oui. Le grand-père de mon mari.
Qui est décédé, madame.
Oui.
Parce que j'ai quelqu'un qui se manifeste auprès de moi et qui se montre en fauteuil roulant et qui m'avertit pour vous, madame, de quelqu'un justement proche de vous, quand même, j'insiste, auquel vous devrez être amené à aider, porter. Et je sens quelqu'un de jeune par rapport à cela. Je dirais quelqu'un de jeune dans les 23, 25 ans. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un, un enfant qui a cet âge-là ou proche.
Mon garçon.
Un garçon qui a 23, 24 ans?
Oui.
Bien. Vous serez amené, madame, à l'aider quand même, parce qu'on me donne qu'il y a un petit problème. Je ne sais pas, on sent quelqu'un, un garçon qui veut changer un peu sa vie actuellement, qui veut déménager, qui veut changer un petit peu son système de vie, de travail, de tout. Vous sentez ça ou pas? Il en parle ou pas du tout?
Ben, actuellement, on vient juste de trouver un travail.
Ah, c'est récent alors?
Voilà. Oui.
D'accord, parce qu'il a été dans une période soucieuse comme ça, très
oui,
angoissée,
exactement,
madame.
Exactement, oui.
Voilà. Bon, cet homme qui est décédé, qui est parti, qui était paralysé, pour moi, madame, c'était quelqu'un... Bon, je n'aime pas toujours parler de religion comme ça, mais c'est quelqu'un qui était pieux, madame, qui avait la foi.
Pieux, oui.
Parce qu'il me donne devant lui une croix, donc il était catholique, je pense, madame.
Oui, oui.
Parce qu'il me montre une croix et il me montre comme ça cette force intérieure. Mais il y a longtemps, madame, qu'il est parti, quand même maintenant, il y a bien 5 ou 10 ans.
Oh, oui. Hein, oui.
Je ressens pas mal d'années en arrière. En fait, cet homme qui est décédé, qui avait ce problème de jambe, avait eu d'abord en premier une jambe, madame, qui était attaquée. C'est ce qu'il me le dit.
Oui, c'est vrai.
Vous voyez, il a une jambe qui a eu un problème important et ça a dégénéré après sur les deux.
Oui, il a eu un côté tout paralysé d'un côté.
Voilà,
et
d'accord.
Après, voilà.
Merci.
C'est pas évident, c'est vrai, dans ces conditions, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. En tout cas, je crois que tous les gens qui sont là ce soir l'ont remarqué. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment vous travaillez? On a cru comprendre que vous aviez des flashs, c'est ça?
Alors j'ai des flashs, bien sûr. J'ai des clairaudiences. J'entends une voix intérieure qui me parle, ou comme une télépathie intérieure avec une entité, comme mon guide spirituel, si vous voulez. Comme le corps aussi fonctionne en vibration. Bon, là, je n'ai pas pu par le trac, je dois dire, mais me laisser aller complètement. Mais autrement, je peux ressentir les douleurs dans le corps physique aussi de la personne qui est devant moi. Ou alors par rapport à un défunt.
Un médium, ça sert à quoi aujourd'hui?
Certains individus ont besoin justement d'une aide morale, psychologique, et ont besoin de se rassurer justement par rapport à leur vécu présent ou de venir aussi. D'autres qui ont besoin justement aussi d'avoir une communication spirit, comme on a essayé tout à l'heure de faire. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais quand on a la chance d'avoir une communication par rapport à un défunt et qu'on peut aller plus loin dans cette communication et avoir des preuves intéressantes, c'est aussi important pour la personne qui est en face de moi, de nous, des médiums, que moi-même par rapport à ce que je peux recevoir. C'est toujours aussi un émerveillement.
Et parce que les morts ont envie de nous parler, en fait, d'après vous.
Bien sûr.
Pour nous dire quoi?
Qu'ils sont bien vivants.
Ah oui, d'accord.
Je ferme les yeux. Quand je suis vraiment avec quelqu'un en rendez-vous, je ferme les yeux, je m'intériorise complètement. Et puis, j'essaye d'avoir ce qu'on appelle des flashs, des images. Et en ce qui me concerne, j'ai ce qu'on appelle également des microfilms, c'est-à-dire j'ai des mini-scénettes qui me permettent de voir des choses, donc événements qui concernent l'esprit, donc que la personne veut rentrer en contact, donc ou les personnes qui viennent me voir, par exemple, dans les familles. Et là, à ce moment-là, je vois des images qui m'emmènent, ou en microfilm, qui me montrent un peu des scènes. Et ces scènes sont reliées justement au défunt, qui me montrent des choses qui lui appartiennent à son parcours dans le destin physique, qu'il a quitté, la matière, et donc le concernant. Ne serait-ce au départ, c'est d'arriver à voir comment il est parti, déjà, pour déjà donner une confirmation que c'est bien l'âme que la personne ou les personnes veulent contacter. Ensuite, viendra également des apparitions, soit dans la pièce du visage, ou la sensation à côté de soi, de l'esprit, la sensation et le ressenti, c'est vraiment la densité qui est là, on va dire, hein. Et dans cette énergie qu'on appelle le périsprit de l'esprit, eh bien à ce moment-là, il va y avoir parfois interpénétration, ce qui va créer une forme d'empathie. Et l'empathie va se traduire par justement soit l'énergie que l'esprit avait de son vivant, c'est-à-dire la douceur, la gentillesse, ou alors l'agressivité ou le tempérament, on va dire en général. Ça, c'est l'empathie donc de l'esprit. Ensuite, viendra également des visions parfois intérieures ou extérieures aussi, derrière les personnes.
Nous avons pris un rendez-vous avec l'un des plus réputés. Henri Vigneault a bien voulu tenter l'expérience face à la caméra.
Donc, comme convenu, je vous ai ramené les photos.
Il va tenter d'entrer en contact avec notre grand-père et notre grand-mère en prenant appui sur des photos de famille. Quelques minutes plus tard, il a plusieurs flashs.
C'est votre grand-mère que j'ai, que je commence à obtenir un petit peu. Là, votre grand-mère, elle m'entraîne dans les campagnes, je vois les petits villages de campagne, c'est ça. Elle m'entraîne là. C'est marrant parce que là, elle est en train de m'entraîner et me faire comprendre qu'elle avait le respect des anciens et de ceux qu'elle avait perdus. Qui était André pour eux ?
Sur le moment, ce prénom ne nous dit absolument rien. André, nous l'apprendrons par la suite, était un demi-frère de ma grand-mère.
Il y a quelqu'un autour d'eux que je peux capter. Il y a quelqu'un qui avait eu, qui avait eu une amputation d'un membre, d'une main, de quelque chose. Il y a quelqu'un qui a subi ça dans leur entourage.
Mon grand-père avait perdu un pouce.
Ah, voilà, d'accord. C'est l'un des deux qui me montre ça, pour faire comprendre un signe de reconnaissance, pour se faire identifier, je dirais. Voilà.
Plus étrange encore, le médium dit non seulement voir, mais aussi sentir des odeurs, et même entendre des paroles.
J'essaie de comprendre aussi avec vous. Soit que votre grand-mère adorait des rosiers dans son jardin, parce que moi je vois une rose.
Vous voyez une rose ?
Ah oui, ça c'est net. J'ai une rose qui est vraiment vite, qu'elle me montre devant moi, mais nettement.
Elle avait des roses sur le pas de sa porte.
Ah oui, parce qu'elle me montre ça, vraiment comme c'est. J'ai même le côté odorant, en médiumnité olfactive, du parfum de cette rose, de ces roses en tous les cas, qu'elle adorait. Alors là, j'ai entendu la voix me dire j'aimais ça, il y a un instant.
Lors de cette séance, le médium racontera une vingtaine d'épisodes familiaux véridiques, de faits très précis. Comment est-ce possible ? Et que se passe-t-il dans la tête du médium au moment où il dit être en communication avec les défunts ?
J'étais jamais allé voir un voyant, jamais allé voir un médium avant, et puis j'avoue que c'est quand même une expérience.
Ah. Bah alors on a vu, il y avait donc plusieurs personnes, marabouts, etc. Bon. Qui vous ont dit des petites choses quand même ?
Ah, pour certains, certains m'ont donné des informations, y compris dans les gens que j'ai trouvé pas très crédibles. J'ai appris des choses extrêmement intimes. C'est-à-dire que je suis allé voir ma mère après, et puis je lui ai dit, dis donc, tu te rends compte, ils ont raconté ça, c'est de la foutaise, n'est-ce pas ? Mais non.
C'est vrai ?
Non, mon fils, c'est vrai. Donc voilà.
Et puis le dernier ?
Ah, le dernier, alors ça c'est quelque chose. Parmi les 22 informations vraies qu'il me donnait, il y en a 10 que je connaissais moi. On pourrait imaginer une forme de télépathie, peut-être, de souvenirs enfouis, je ne sais pas quoi. Mais il y en a quand même 12 que je ne connaissais pas. 12 que j'ai appris après avoir quitté le médium et avoir téléphoné à mes parents en leur disant « Mais qu'est-ce que c'est que cet André dans la famille ?» Eh bien oui, il y a un André dans la famille. Qu'est-ce que c'est que ce puits ? Y avait-il un puits ? Y avait-il un lavoir ? Ben oui.
Et ce qui est intéressant toujours, quand on parle du monde de l'esprit, et dans ses signes ou guidances ou contacts, on va dire, c'est d'avoir le plus possible, d'avoir la décortication de l'analyse des faits, on va dire. C'est comme dans le contact médiumnique, quand je le vis en présence des gens que je reçois en privé ou en public comme moi et d'autres collègues, j'aime bien toujours le plus possible, en tout cas, avoir le plus de détails qui me montrent bien que c'est vraiment l'esprit et l'attention d'esprit en même temps avec les signes de reconnaissance. Et par exemple, il m'arrive d'avoir le tempérament qui ressort, que l'esprit exprime à travers un emportement que je peux avoir aussi. Les gens reconnaissent par rapport au verbe, par le peut-être pas le mot exact, mais en tout cas, l'impression que l'esprit donne, ou un mot ou deux qui peut ressortir, ça arrive aussi de temps en temps, ou alors, au contraire, le côté doux, calme de l'esprit, aussi comme il était sur Terre, pour se faire identifier aussi, parce qu'il est toujours dans cette forme d'état-là, ou alors parce qu'il se sert de cela pour se faire identifier et reconnaître également, ça arrive. Ça va dépendre des âmes, en fait. Il y a des âmes qui... Enfin, on va parler de quelqu'un qui part de l'autre côté. Comme nous tous, ça va nous arriver forcément. Hein. On est et on meurt forcément. On est de passage, comme on dit. Et puis, cette personne, par exemple, qui va partir, qui était complètement incroyante. Mais par contre, si cette personne est incroyante, et c'est un droit aussi d'être incroyant, hein, mais par contre, qui est également une personne, par exemple, bonne, gentille, qui a un très bon fond, eh bien, quand elle part et retourne aux sources, on va dire, mais automatiquement, on retrouve et on retourne à la source originale. Donc, on retrouve cette conscience là toujours, et donc, on n'a pas de problème pour comprendre qu'on est parti de l'autre côté à ce niveau-là. Mais par contre, il y a des gens qui sont bloqués sur le plan de leur vie, qui peuvent être aussi croyants, par exemple, mais bloqués parce qu'ils n'ont pas une vie non plus, peut-être toujours facile, pas toujours facile de caractère ou un tempérament particulier, qui fait qu'en même temps, ils sont accrochés à la vie, par exemple, ou ils en veulent à des vivants. Et donc, certains, par exemple, ne se rendent pas compte qu'ils sont encore décédés. Ça arrive. Donc, c'est des esprits tourmentés, comme on dit, quelquefois. Et il arrive également qu'il y ait des personnes qui sont... qu'il y ait des personnes également qui sont conscients qui sont de l'autre côté et en même temps qui ont un désir tellement important, tellement profond de dire « je suis en vie » que certaines personnes créent des phénomènes chez eux. Et je connais une dame avec son fils et sa fille qui ont 23, 24 ans et sa fille 19 ans et qui vivent avec donc, la maman et qui, eux, ont tous peur parce que le papa se manifeste beaucoup avec ce qu'on appelle des bruits, des déplacements d'objets, objets qui tombent, ça n'arrête pas. Et ils ont vraiment, vraiment peur. Mais est-ce que l'esprit veut toujours dire « je suis là » C'est de la preuve d'amour, ce n'est pas parce que l'esprit est mal. C'est toujours le lien d'amour qui nous relie, bien sûr, à ceux qui sont partis, ou parce qu'eux-mêmes ont besoin également de nous protéger, de nous chérir dans l'affectif, on va dire, ou nous protéger, ou alors parce qu'ils ont besoin également de dire « je suis là, ne t'inquiète pas ». Par exemple, ça peut être ça. Et puis, certains, au contraire... peuvent aussi avoir le contraire. Ils peuvent très très bien aussi avoir un esprit de vengeance parce qu'ils ont souffert de telles situations. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, j'ai vu des esprits, des fois, en colère, par exemple. Et par rapport à quelqu'un qui vient me voir. Ça peut arriver. Donc, ce n'est pas très agréable, mais bon, pour celui qui va recevoir le message, mais il faut que ça passe. Il y en a qui partent de l'autre côté, qui aussitôt voient leur corps à côté, physique. Mais très très peu, hein. Ça va durer peut-être des microsecondes, on va dire. D'autres plus longtemps, on va dire, ça va dépendre de l'esprit, comment il va se dégager de ce corps, entre guillemets. Bien que le dégagement prend du temps, parce que là, c'est encore un autre sujet à développer. Mais là, on parle de l'instant même où l'âme quitte le corps physique. L'âme va voir ce qu'on appelle le film panoramique de sa vie. Et là, à ce moment-là, après cela, sera coupé ce qu'on appelle la corde d'argent que l'on retrouve dans beaucoup d'écrits religieux, de toute façon, de par le monde. Et donc, à ce moment-là, l'âme pourra partir de la matière, donc libérée de son corps de chair. Et là, à ce moment-là, va aller dans un plan de conscience, un niveau de sphère spirituelle où d'un passage de repos d'un temps donné, en général c'est ça. Et puis, également, il y a ceux qui vont pouvoir, par exemple, dire au revoir aux vivants ou se manifester pendant quelque temps, ou dire simplement au revoir, mais qui ne sont pas encore dégagés. Ils sont conscients, mais ils vont se dégager après. Je l'illustre dans mon livre avec l'histoire de ma grand-mère qui est décédée, qui était Alzheimer à la fin de sa vie, et donc son mari était décédé avant elle, était venu la chercher, et donc mon grand-père est venu avec elle dans ma chambre, et donc elle comprenait pas entièrement encore complètement. Elle voyait son mari être heureuse, mais en même temps, elle s'en rendait compte pas entièrement qu'il fallait qu'elle change de plan. Et donc, à ce moment-là, je suis intervenu dans l'histoire. On est relié par énergie, on va dire, vibratoire, entre ce monde de la physique et ce monde de l'esprit. Et donc, on est tous interdépendants, même avec la nature, avec les événements, tout, quoi. C'était un condensé vibratoire. Et je pense que la science mettra de plus en plus en avant ce genre de phénomène et qui a une logique forcément naturelle, je pense. Certaines personnes peuvent se sentir complètement polluées par des parasitages, comme on dit, d'esprit. Hein. Certains n'ont peut-être pas les mots pour le définir au départ, et après constate qu'il se passe quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel, qui n'est pas dans la normale, on va dire, et qui est plutôt vraiment d'un esprit ou d'esprit, au pluriel, qui parasite le vivant, et qui va se manifester par des douleurs dans le corps. Certains vont ressentir physiquement ce qu'on appelle des larves qui s'accrochent à eux. Alors, qu'est-ce que les larves astrales? Je ne pourrais pas dire. Ce sont des entités, peut-être, je pense, entités, mais non existantes sur le plan physique. Je pense qu'on peut exister sur le plan physique et matériel, mais qui existent sur une dimension particulière et polluante et parasitante, et qui fait que des gens, des fois, moi, ça m'est arrivé d'être mordu au doigt de pied, d'être, tu vois, mais c'est pas des esprits. C'est une chose, une matière qui se colle et qui monte le long de ta cuisse, le long du, ou qui est dans le corps à l'intérieur. Les gens ressentent ça. Alors, certains diront que c'est parfois diabolique, possessif, possession. C'est pas forcément ça. C'est dans d'autres aspects encore d'entités parasitantes qui existent. Et d'autres vont le vivre, des fois, avec des phénomènes, au contraire, radiants. C'est-à-dire qu'ils vont sentir qu'ils sont portés par quelque chose d'une force extérieure à eux, qui les guide, qui les protège, qui ressentent parfois un amour subtil, invisible. Et puis d'autres auront des signes, bien sûr, de quelqu'un qui leur est proche, qui est reconnaissable par rapport à un parfum que l'esprit mettait de son vivant, par exemple, avec différents témoins aussi, donc qui n'ont pas connu et qui vont sentir ce parfum, par exemple. Voilà, c'est différentes façons. Donc, les signes, il ne faut pas en voir de tout ou n'importe où, parce que malheureusement, certains voudraient vraiment voir des signes. Et il faut vraiment voir ce qui est intelligible au niveau de ces phénomènes-là, entre guillemets, et voir si vraiment il y a une résonance qui amène une réponse et qui était une forme d'avertissement bonne ou mauvaise, on va dire. Et puis, certains auront des choses très probantes qui viennent, par exemple, également du monde subtil dit des invisibles. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un cadre d'un familier qui est décédé et qui se décroche d'un seul coup. Et parfois, c'est la date anniversaire du défunt, par exemple. C'est donc un signe quelque part. On peut le supposer, en tous les cas. Et parfois, c'est aussi parce qu'il y a un événement qui se passe qui est important. Parfois tragique aussi. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé il y a pas mal d'années en arrière. Je sortais d'une conférence en province et puis le lendemain, j'ai été retrouver des amis donc dans le centre-ville. De l'hôtel pour aller jusqu'à leur domicile, j'avais environ peut-être un quart d'heure à pied à faire. Et puis je marche dans le dédale des rues et je suis fatigué parce que j'avais vraiment donné beaucoup la veille et donc j'avais eu beaucoup de phénomènes de contact spirituel, on va dire, en public, et j'avais une fatigue accumulée, on va dire, aussi. Et puis, je demande, en m'adressant au plan spirituel invisible, je dis, écoutez, là-haut, donnez-moi des forces pour me donner quelque chose qui me requinque un peu, et puis, si vous pouvez me donner un signe, bien, pourquoi pas. Parfois, on dit, frappez, on vous ouvrira. C'est ce que j'ai fait. Et finalement, au même moment, j'ai eu la pensée et la vision de mon père, très fort, qui est décédé donc en 1994. Et je parle de cela par rapport à cet événement-là. Ça remonte à environ maintenant 5 ans, 4 ans en arrière. Et puis là, je dis pourquoi? Pourquoi je pense à mon père? Pourquoi son image s'impose à moi? Je dis bon, papa, il y a sûrement une raison. Tu es forcément relié à moi dans l'instant même où je demande une aide. Et puis je marche. Et puis j'arrive sur un parking où les voitures étaient stationnées donc en épi. Et puis, il y a un véhicule donc, qui se dégage de l'endroit. Et puis, je passe à sa place, à la place du véhicule. Et je vois au même moment, par terre, une carte postale qui est donc ouvrable en deux parties. Et puis, à l'intérieur, il y a marqué ceci, « Je pense à toi ». Et en bas, c'était signé « Jojo ». Et mon père s'appelait Georges et tout le monde l'appelait « Jojo ». Voilà un signe de guidance et en même temps de manifestation de guidance spirituelle. Il y a eu le lien avec le défunt, et donc familier en ce qui me concerne. Et en même temps, il y a eu le fait que la personne soit partie à ce moment-là au niveau donc de son véhicule pour se dégager et que je puisse prendre le pas et aller à cet emplacement même et voir visiblement par terre cette carte martelée par les roues de voiture, on va dire. C'est qu'il y a eu donc une jonction, on va dire, de cet ensemble-là pour que ça puisse se mettre en place comme ça. Souvent, on parle de la petite voix intérieure, suivre son intuition. Bien sûr que l'intuition est là pour chacun de nous, bien sûr, mais au-delà du fait qu'on a cette intuition tous, bien sûr, à différents degrés, on a forcément également ce qu'on appelle un esprit guide, des esprits guides. Donc, esprit guide, ça veut dire de famille, bien souvent. Certains parleront également de guides différents, qui ne sont pas des membres de famille, par exemple. Et puis, il y a ce qu'on appelle également l'ange gardien pour d'autres. D'autres disent que c'est le guide spirituel et l'ange gardien sont la même entité. Moi, je ne crois pas parce que j'ai vécu deux expériences différentes qui me montrent bien que ce n'est pas du tout les mêmes esprits. Et donc, on est suivi donc par des êtres spirituels qui nous orientent vers des choses, qui nous empêchent d'avoir un accident de voiture, par exemple, parce que pourquoi, comment, d'un seul coup, on aura un regard différent sur un danger, on aura l'intuition de dire de regarder à gauche, alors qu'il n'y avait pas lieu de regarder, par exemple, à gauche, ou alors un ressenti profond de malaise qui fait qu'on est prévenu, quoi. Ou alors une intuition vraiment fulgurante qui amène justement un avertissement, on va dire.
J'ai eu, à l'âge de 22 ans, l'apparition du guide spirituel. Un esprit donc qui s'est manifesté à moi et qui m'a fait comprendre qui il était, donc qu'il était là pour m'aider dans mon travail et mon cheminement pour la médiumnité. J'étais parti donc en vacances dans ma famille et arrivant d'un dîner un soir, me couchant vers les 2-3 heures du matin tardivement, et là j'ai entendu un son à gauche et ce son était mélangé de voix et également de musique. Et plus je me laissais emporter par ce son, cette musique, et plus je me décorporais, je sortais du corps physique, justement. Et là, j'appréhendais. Et à ce moment-là, pour me rassurer, l'esprit guide s'est fait entendre et m'a dit « Viens ». Et à ce moment-là, je n'ai pas pu résister. J'étais absorbé hors du corps. Et je suis arrivé dans un espace extraordinaire. Dans une dimension, il y avait un plan lumineux avec des corridors de lumière autour, qui m'entouraient, pardon. Et là, il y avait un groupe de personnes, d'esprits, pardon, qui étaient là, allongés, qui étaient face contre le sol, et les voix et les sons étaient mélangés, venant d'eux, et de l'espace autour au niveau de l'ambiance musicale, de la musique. J'ai compris plus tard que c'était ce qu'on appelait la musique des sphères, en fait. Et détaché du groupe, debout, à droite, à ma droite, se tenait un être, là, qui m'a regardé. Il ne m'a rien dit. Mais c'est lui qui m'avait dit « Viens ».
Tout le monde a des esprits autour de soi, de toute façon. En fait, on ne peut pas éviter des grandes lignes, on va dire, d'un trajet de vie. Puisque certains sont beaucoup plus éprouvés par des épreuves que d'autres dans une vie, dans une incarnation. Et en fait, certains auront vraiment des grâces de sortir de marasmes ou de problèmes graves, et d'autres, au contraire, vont subir des épreuves terribles. Donc voilà, maintenant, comme j'ai dit à l'instant, certains peuvent ressentir intuitivement, et plus que ça, par des forces supérieures d'esprit, qui vont aider dans leur vie justement à éviter le pire. Ou les diriger bien. Mais on a tous, oui, de toute façon, des esprits qui aident à côté. L'âme, quittant le corps physique, a une densité de ce qu'on appelle un corps glorieux, un corps spirituel, donc qui est aussi dense que nous, on peut être dans cette matière physique. C'est une autre densité qui est impalpable à nos yeux, on va dire incarnée, alors que l'âme, de l'autre côté, a sa propre densité sur le plan spirituel. Comme il y a différents plans, de l'autre côté, qui ont leur propre existence et également leur univers, on va dire. Moi, j'ai eu cette grâce dans le passé de vivre beaucoup de décorporations, d'être initié comme ça de l'au-delà, par l'au-delà, d'être initié à ces dimensions-là, par ces manifestations, par ces contacts d'esprit. Et également, j'étais emmené hors du corps, justement, à vivre des expériences auprès de personnes qui venaient de partir, qui ne savaient pas qu'ils étaient partis décédés. Donc il y avait d'autres esprits autour d'eux qui leur parlaient pour leur faire comprendre. On m'a montré cela, c'est on peut dire aussi initiatique. Ensuite, ça m'est arrivé d'être sur un plan et de voir également la végétation, de voir... il suffisait que je regarde, je dirais, une fleur au lointain, ma vue était comme un zoom. Je pouvais même voir le pistil et en même temps tout l'aura, toute la lumière, la radiance également de le moindre brin d'herbe et en même temps de voir l'aura générale de toute cette végétation en même temps, de sentir également l'air qu'on appelle éther, qui ressource, qui régénère au niveau du corps spirituel qui est hors du corps physique, donc dans ce voyage que j'ai vécu à l'époque, et de ressentir ça, et en même temps, dans l'instant même, de me dire, il faut absolument que je puisse faire l'expérience de tout, quoi, de toucher, de ressentir, parce que je suis conscient, j'étais conscient entièrement. Et donc, au retour, on n'a qu'une pâle, je dirais, un pâle souvenir, on va dire, parce que c'est très fort quand on le vit dans l'instant même avec la conscience, mais au retour, on n'a que justement une autre dimension qu'on a quitté. Donc on revient à la matière physique. Donc il reste des choses en sensation, mais tellement infimes. Un jour, j'étais conduit hors du corps, cette fois-ci, dans un plan où il y a justement cette dimension spirituelle avec la végétation. Et il y avait, je peux dire que j'ai vécu ça, la mer, l'eau. Et j'ai dit, en vivant cette expérience, il faut que, pour mon retour dans le corps physique, que je puisse toucher la matière de cette eau pour voir comment c'est, quoi. Je l'ai touchée. Je ne peux pas le définir avec des mots. C'est indescriptible, en fait. Parce que l'énergie est là. Il y a vraiment cette densité aussi qui existe. Mais là, par le corps spirituel qui est relié à cette dimension-là, bien sûr. Hein. Et en même temps, en ressentant un souffle de vent, d'air, qui n'est pas descriptible par rapport au mot physique, c'est pareil, et là, qui ressource complètement le corps spirituel, donc ce qu'on appelle l'âme qui est partie hors du corps, bien sûr. Et là, à mon retour physique, eh bien, j'avais bien sûr encore cette sensation qui est diminuée, mais qui est encore là, qui était présente, on va dire. Mais je constatais des améliorations au quotidien de ma vie, en santé, tout ça. C'était vraiment, sur le plan énergétique, on a réparé mes corps subtils, en fait. C'est ça que j'ai eu. On a réparé mes corps subtils.
Un soir, j'ai pu voir au pied de mon lit une forme lumineuse extraordinaire, blanche. Et j'ai commencé à ressentir cette vibration si particulière qui parfois, que j'appréhende parfois, que je n'aime pas trop ressentir. Je n'aime pas la sortir du corps, à vrai dire, le départ. J'ai toujours une appréhension de savoir ce qui va se passer après. La peur de perdre le contrôle de moi-même, on va dire, quelque part. Et quand il y a une importance spirituelle, c'est là que j'entends « viens » au niveau du guide spirituel. Il intervient à ce moment-là. Et là, je suis confiant et je pars sans problème. Et là, je me suis retrouvé, si je puis dire, face à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était en face de moi. Je pouvais voir mon corps physique allongé sur ma droite. Et en fait, au départ, il y a eu une brume blanche, comme au départ, avec les yeux de chair. Et là, cette fois-ci, je la voyais, mais au niveau de la vision de l'esprit. Et cette luminosité s'est éclaircie, et c'est là qu'est apparue Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, au milieu. Elle avait le dos à un pommier, en fleurs, et elle tenait dans la main gauche la terre, comme cette sphère-là. Et la terre, dans sa main, était vivante. Et elle m'a regardé, et elle m'a dit, dame à âme, ce n'est pas par les lèvres, bien sûr, elle m'a dit, puisque c'est ainsi, que les hommes ne comprennent pas, il y aura une guerre. Et elle a disparu, et j'ai réintégré mon corps physique, j'ai pu voir après la lumière de sa vibration au pied de mon lit avec mes yeux de chair disparaître au fur et à mesure progressivement. Et là j'ai prié, remercié, et j'étais également bien sûr inquiet. J'en ai fait part à mon entourage, à quelques personnes. C'est avéré qu'en même pas 8 à 10 jours après, eh bien, a éclaté la guerre du Golfe.
Ça rejoint les gens qui vivent des NDE, eh bien, cela rejoint également le phénomène de la décorporation. Sauf que dans la décorporation et dans le principe de la mort, c'est la corde d'argent qui va être rompue. Dans la NDE, c'est pareil. Soit la personne retourne, la NDE, on retourne dans son corps physique automatiquement parce que les gens n'en parleraient pas sinon. Voilà, en tout cas, avec leur corps physique. Donc, à ce moment-là, c'est le même principe. On emprunte soit ce fameux tunnel que tout le monde parle, et d'autres, comme c'est mon cas aussi, ça m'est arrivé, d'être projeté avec une vitesse accélérée très très grande, et là, de ne pas avoir de tunnel, simplement une sorte d'aura lumineuse autour de moi, de lumière, mais avec cette sensation de vitesse importante, sans voir le tunnel. D'autres fois, j'ai vécu le tunnel, bien sûr. Et là, on est projeté très rapidement. Et là, on arrive dans un endroit où vraiment on est sur un plan, comme on dit. Alors, où est ce plan ? Il y a différents plans. Donc, quel est ce plan ? Je ne sais pas. Comme on parle souvent de premier plan, deuxième plan, bon, comme on dit également, ravi en esprit, dans la religion catholique, on dit ça, ravi en esprit, jusqu'au neuvième plan. Donc, on retrouve la même chose, quoi. C'est des plans, en fait, finalement. Hein. Les dimensions, les sphères, entre guillemets. Voilà. Maintenant que tout soit imbriqué dans un plan plus ou moins le plus proche physique de la Terre, c'est évident. Donc, on ne peut pas parler de plan inférieur, on peut parler également peut-être de sphères qui se côtoient, on va dire de dimensions qui se côtoient. Après, forcément, qu'il y a d'autres univers beaucoup plus subtils et plus éthérés qui sont beaucoup plus rayonnants dans la spiritualité qu'on va appeler Dieu, peut-être, qu'importe le nom qu'on va donner encore. Et donc, je pense qu'ils n'ont aucun rapport avec ce monde qui nous entoure, subtil et parallèle, qui est beaucoup plus loin dans un espace dimensionnel où ça, mystère. Je pense sincèrement, et puis on le voit bien déjà quand on discute avec des personnes, que certains vivent des expériences particulières de réceptivité, soit par le rêve, soit par une sensation de présence d'esprit. Et il y a différents degrés par rapport à ça encore une fois, bien sûr. Et puis d'autres se persuaderont de ressentir quelque chose qui n'est pas là finalement. Moi, je connais un chauffeur de taxi, il m'a dit, j'ai peur d'être pris pour un fou, il n'y a que ma femme qui le sait, il me dit. Je lui dis quoi ? Il me dit, écoutez, la nuit, des fois, je suis en station, ou alors j'attends, quoi. Des fois, les clients, ils traquent la nuit, ce monsieur. Et il me dit, mais je vois des fois des esprits dans la rue qui traversent, d'une autre époque ou récente, au niveau des apparitions. Parfois, je les vois derrière une fenêtre ou dans la rue, il me dit, mais ça m'impressionne, mais des fois, personne ne me regarde, personne ne me parle, mais je les croise, il me dit. Il faut savoir d'abord également que tout le monde n'a pas la même sensibilité intérieure en général. Certains sont beaucoup plus réceptifs, intuitivement, on va dire, d'inspiration aussi, ne serait-ce que, par exemple, que les artistes, musiciens, comédiens, peintres, pourquoi pas, sculpteurs. Et puis ceux qui seront vraiment dans le côté très intello, matière, on va dire, entre guillemets, qui eux aussi ont un mode de fonctionnement intuitif au-delà de l'intellect, qui aussi ont des logiques, bien sûr, de science, mais aussi reçoivent également des informations. Je connais un de mes amis qui est chercheur et qui a vécu en France. Maintenant, il est retourné chez lui au Japon. Eh bien, lui, il m'a raconté que ça lui est arrivé d'avoir des solutions par le rêve. Alors, évidemment que la conscience subconscient peut donner des réponses, bien sûr, par rapport aux préoccupations. Mais lui, il m'a dit, j'ai eu des réponses qui étaient complètement illogiques par rapport au raisonnement que j'avais dans l'instant même, on va dire, dans ma recherche. Je suis pas un neurochirurgien pour expliquer, voilà. Mais bien sûr qu'on est relié par des ondes psychiques, on va dire, qui nous amène à être sur une certaine longueur d'onde et qui permet justement de percevoir quelques informations à différents niveaux. Et certains seront reliés donc soit au monde de l'esprit, avec ces fameux contacts, on va dire, qui vont se manifester soit par le songe, pour certains qui peuvent avoir une révélation, ou alors un apaisement d'un défunt qui est proche, qui vient rassurer également, par exemple, pour dire « je suis bien ». Voilà. Et en même temps, il y a ceux qui vont recevoir des informations qui vont concerner leur devenir par ces fameux songes de contact. Et puis ceux qui vont faire ce qu'on appelle le rêve prémonitoire, qui n'aura strictement rien à voir. C'est un espace-temps dans lequel l'esprit va voyager et qui va être amené à vivre plus tard. Souvent, je dis aux personnes de ne pas abuser du contact spirituel. Et bien sûr, si par exemple des personnes aiment bien voir des médiums en public pour assister aussi à des conférences, bien sûr, de différents sujets, on va dire, et en même temps assister à des expériences dites médiumniques, eh bien, c'est bien parce que ça peut permettre à un esprit ou des esprits de passé d'en profiter à ce moment-là pour donner et délivrer un message. Mais il ne faut pas forcément attendre systématiquement. Le fait également d'entendre les témoignages des proches, défunts, de d'autres personnes enrichissent également soi-même, apaisent et confortent également dans le fait que l'âme continue après la mort. Et si l'âme doit venir, elle vient. Après, quand il y a des contacts individuels qu'une personne veut prendre avec un médium, eh bien, à ce moment-là, si l'esprit peut venir, ou si les esprits peuvent venir, eh bien, c'est bien. Mais si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, bien sûr. Ou l'empathie n'est pas là avec le médium aussi, le défunt, ou alors avec la personne vivante aussi en face de soi, c'est pareil. Hein. Il y a différents paramètres par rapport à cela. Puis il y a des gens auront besoin tout le temps de faire des contacts, comme ceux qui pratiquent la TCI, par exemple, qui vont tout le temps la pratiquer. Et là, c'est dangereux aussi, comme c'est dangereux également, à tout prix, de vouloir faire du spiritisme tous les jours. Et d'abord, le spiritisme, entre guillemets, est dangereux, dans le sens que ceux qui font l'étape tournante, ceux qui font du Ouija, c'est la porte ouverte à tout. Et là, malheureusement, personne n'est à l'abri, justement, d'un problème particulier quand une porte s'ouvre avec des esprits, on va dire, malfaisants. Souvent, je dis aux personnes également, quand vous avez eu des preuves, soit personnelles, seules, au niveau de contacts dits médiumniques, ou alors par un médium intermédiaire, eh bien, quand on a eu des belles preuves, et que les preuves sont probantes, et en même temps qui aident vraiment à continuer à s'accrocher à la vie ici-bas, on va dire, eh bien, laissons l'âme migrer de l'autre côté et évoluer, parce qu'elle-même a été heureuse de pouvoir apporter justement ses preuves de survie, parce que sachant que le vivant va aller mieux aussi. Donc ça aide l'âme aussi à l'apaisement, à l'évolution. Il ne faut pas quémander tout le temps ce contact avec le monde des esprits. Il faut les laisser évoluer. Et c'est le problème. Souvent, les gens sont dans l'addiction, sont dans la demande, parce qu'au départ, il y a une souffrance, bien sûr, et d'autres ont la curiosité. Ça n'a rien à voir, c'est encore deux choses différentes. Ah oui, c'est le but. Hein. C'est le but d'arriver justement à repartir sur un nouveau départ et puis à travers les épreuves. Ça n'empêche pas qu'il y aura toujours en soi le manque de l'autre, le manque, l'absence. Parce que, comme Krishnamurti disait dans ses livres et dans ses conférences, plutôt, il disait on pleure sur nous-mêmes, ce qui est véridique, mais on pleure dans ce qui est non-dit, ce qui est le manque, l'absence. Enfin, il y a tellement de choses à travers ça dans l'affect, on va dire. Hein. Et puis, c'est ce qui permet justement ça, c'est de. Le contact médiumnique, c'est le monde d'avoir ses preuves et de pouvoir dire « ils sont là, il est là, elle est là ». Donc, on n'est pas coupé et l'âme continue. On n'est pas coupé de ce lien. Mais bien sûr qu'il est différent, parce qu'il n'est pas dans la matière. Mais l'âme continue à migrer avec sa propre évolution. Et quoi qu'il en soit, il faut savoir une chose, c'est que l'on retrouve toujours ceux que l'on aime. On est relié tout le temps et on n'est pas dans des plans différents parce que les gens ont peur bien souvent, et ce qui est vrai, qu'il y a différents plans d'évolution, on le voit bien dans les contacts fragmentairement que tout médium peut recevoir depuis toujours, on va dire. Mais il faut savoir ce qui est important de signaler quand même, c'est qu'on retrouve toujours ceux que l'on aime, quelle que soit la dimension ou soit l'âme. Et évidemment qu'une âme qui est beaucoup plus éveillée, beaucoup plus loin sur un plan spirituel, c'est elle qui se mettra au diapason de l'autre personne proche ou des personnes proches qu'elle a connues, on va dire, eh bien, pour la rejoindre. Et on sera reliés. Donc à ce moment-là, il n'y aura pas de coupure et on sera vraiment dans cette osmose d'amour. Par contre, il est vrai, et dans la constance de ce que l'on sait tous, dans l'expérience également, c'est qu'une personne qui va tenter, qui va rejoindre l'être aimé ou les êtres aimés par suicide, par un départ volontaire cette fois-ci, pour rejoindre ceux qui sont partis de l'autre côté, il est évident qu'il y a une souffrance. Moi, je l'ai vécu par des rencontres avec des personnes autour de moi en contact médiumnique, comme je l'ai vécu au plan personnel avec des proches, notamment une personne qui est partie également d'un départ volontaire et qui souffrait terriblement de son acte pendant presque 9-10 mois parce qu'elle se rendait compte de l'erreur qu'elle avait faite. Tout le monde n'est pas au même niveau, au niveau de la souffrance. Il y a des êtres qui sont beaucoup plus affectés, on va dire, par la douleur, par déjà l'accumulation des épreuves d'une vie qu'ils ont pu avoir, déjà depuis l'enfance pour certains, et puis d'autres c'est par la maladie, par les événements de famille, par beaucoup, beaucoup de paramètres, et puis là c'est, je dirais, une expérience de vie de trop, quoi, en négatif. Et là, automatiquement, certains n'auront pas cette force-là pour avancer, et d'autres, au contraire, auront peut-être une étincelle en eux qui leur permet encore de rebondir et d'avancer, et de continuer leur vie avec d'autres joies, d'autres bonheurs. Ça n'empêche pas également toujours ces souffrances, peut-être, mais peut-être diminuer aussi ou transcender, on va dire. Mais certains arriveront, seront peut-être plus forts que d'autres, ça va dépendre de chacun. Mais c'est le grand mystère encore, comment définir l'épreuve si vraiment elle a un sens. On constate de toute façon qu'il y a vraiment, dans les événements de vie de chacun, des épreuves que d'autres ne vivront jamais. Et il faut être passé par telle souffrance et telle épreuve pour comprendre. Et peut-être, je dis bien peut-être, s'humaniser davantage. Parce que, et se dépasser, bien sûr, et dépasser cette souffrance-là. Mais bon, ça, c'est différent pour chacun de nous. Hein. Et puis, l'expérience nous amène aussi à avoir du recul aussi, au fur et à mesure. Et puis, d'autres seront beaucoup plus accablés, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à ceci. Mais il est évident que dans un destin, entre guillemets, il y a de toute façon des épreuves nécessaires pour l'avancement, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Est-ce qu'il faut être cassé intérieurement pour avancer? Ça, c'est le grand mystère. Mais certains passeront des paliers plus forts, plus riches et plus solides intérieurement qu'ils n'ont jamais été avant, peut-être aussi, parce qu'ils ont dépassé. Si on prend des gens qui ont eu des épreuves terribles dans leur vie, certains vont arriver justement à dépasser tout ça et vont peut-être aussi, pour certains, avoir une dimension de quête spirituelle. Ce n'est pas tout le monde qui fait une recherche spirituelle. Mais quand on fait cette quête-là, ça amène justement une sorte d'énergie différente en soi, un moteur de vie qui s'accélère en soi pour manger la vie et ne plus la subir tout le temps systématiquement. Il y a plein de personnes qui ont peur, bien sûr, qui ont peur de se remettre en question et puis également qui ne veulent pas donc faire de recherche sur le plan spirituel et se poser des bonnes questions, justement. Enfin, une des bonnes questions sur l'au-delà, bien sûr, ce sont des faits qui sont présents, qui ont toujours été là depuis tout le temps, on va dire. Et c'est bien souvent les femmes qui sont dans le deuil, qui vont, surtout les personnes qui perdent des enfants, ce sont les femmes qui vont beaucoup plus aller vers cette quête-là en premier. C'est elles qui mettent au monde la chair de leur chair, comme on dit. Hein. Donc elles sont vraiment très très reliées avec cette quête, cette dimension, en se demandant si mon enfant est en vie, je veux savoir ce qui est humain, profond. L'homme, par contre, a une tendance bien souvent à s'intérioriser, à ne pas trop parler de l'enfant parti. Et c'est souvent la femme, donc encore une fois, qui va vers cette démarche-là, qui entraîne le mari. Et parfois, c'est les deux. Ça, c'est vraiment super quand vraiment les deux sont ensemble dans la même démarche. Mais l'homme va venir, l'époux viendra après avec sa femme. Il peut y avoir le contraire, mais bien souvent, c'est plutôt dans ce cas-là, hein, précisément. Quand j'avais l'âge de 11 ans, à peu près, sachant que j'ai commencé à avoir des phénomènes médiumniques à l'âge de 7 ans, enfant, et bien à l'âge de 11 ans, il n'y avait qu'une librairie et papeterie qui avait un tout petit rayonnage avec environ peut-être, je sais pas, peut-être 8 livres, 7 livres, pas tout cassé, on va dire, justement, 7 livres qui parlaient plutôt de la voyance à travers les cartes plutôt que de l'au-delà. Donc voilà, il n'y avait pas grand-chose en fait. Et donc moi, j'avais aucun moyen à l'époque, en fait, de me former à ces questions-là, de pouvoir avoir des réponses à ce que je vivais. Donc j'avais aucun élément. C'est plus tard, quoi, beaucoup plus tard. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a il y a vraiment une recherche, une quête, parce que les gens ont besoin d'être assurés avec leur quotidien déjà, parce qu'on a l'impression de vivre dans des moments incertains par moment, hein, au niveau événementiel, on va dire, de la vie, tout simplement. Et également au niveau personnel, ça se répercute également sur le personnel, tout ça aussi. Et les gens, donc, voilà, vont vers cette ère de connaissance, qu'on appelle également l'ère du Verseau, dans lequel on tend, hein, a priori c'est ce qui est dit. Et puis également, on est dans l'ère de la communication, parce qu'on n'avait pas avant tous les outils comme l'Internet, le web, tout ça. Et les médias comme la télé donnent de l'information également. Donc on est nourri d'informations. Et donc l'être humain est quand même d'une nature curieuse. Il aime comprendre, apprendre et chercher en principe. Donc on a plus, je dirais, de renseignements sur différents sujets, différents domaines. Du vrai, du faux, un mélange de tout. À chacun de trier dans ses propres recherches, bien sûr, le plus possible. Et en même temps, on a davantage de littérature aujourd'hui dans le monde, justement, des recherches sur l'au-delà, sur tout ce qui est recherche spirituelle. Déjà, on voit très bien également dans les grands magasins qui vendent des bouquins ou librairies, on voit bien que maintenant, il y a des livres également sur le bien-être. Les gens ont besoin, justement, de rechercher un équilibre intérieur. Donc avec la sophrologie, avec du yoga, avec la méditation, avec plein de choses différentes. Et donc ces livres-là qui donnent des moyens de pouvoir justement évacuer et se recentrer, etc., etc. Et il y a également ces livres, donc nombreux maintenant sur le marché, en France également et d'autres pays bien sûr, sur le spirituel, sur l'au-delà, sur des gens qui témoignent, sur des gens qui parlent des sujets. Donc maintenant, comme on a beaucoup plus des médias qui aident à ce niveau-là, les gens donc recherchent également dans l'ensemble général, quoi. Ceux qui vivent, comme moi et d'autres, bien sûr, la médiumnité, on va dire, on est complètement dans l'incarnation aussi intégrée, on va dire, dans le quotidien. Il n'y a pas de différence, il y a pas, sauf qu'il y a une particularité, on va dire. Mais on prend conscience que la vie est précieuse aussi, parce que l'âme aussi est dans une dimension dans laquelle elle doit évoluer, avec sa richesse et avec toutes ses expériences, on va dire, qu'elle peut vivre. Donc, il n'y a pas de différence pour moi. Et on apprécie aussi bien la vie au quotidien que également cette dimension spirituelle. La seule différence que je pourrais dire, c'est que la seule différence, c'est qu'en fait, on s'enrichit par l'expérience et automatiquement, on atteint une certaine forme d'évolution intérieure. Et donc, on a de plus en plus envie de vivre les choses naturellement, sans complications, comme tout le monde, bien sûr, évidemment, mais on prend conscience de plus en plus qu'il y a cette force qui est plus forte que nous, qui nous dépasse, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle ce qu'on veut. Et ça, on le sent. On sent qu'il se passe quelque chose de particulier. Et certains vont vivre des expériences beaucoup plus denses dans ce grand mystère, on va dire, que d'autres. Et là, on vibre. Après, il y a des personnes qui vivent de façon partiellement des choses médiumniques qui vont se passer, des contacts à différents degrés. Et parlons par exemple des personnes qui ont perdu un être cher ou des êtres chers qui malheureusement n'arrivent pas du tout à s'en remettre. Ça, c'est vraiment dramatique parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à sortir de ce deuil ou de ces deuils. Eh bien, certains, malheureusement, ont souvent envie de rejoindre les proches qui sont partis et donc ne sont pas assez dans leur quotidien comme il le faudrait. Bien que la souffrance est propre à chacun de nous à différents degrés, bien sûr aussi, hein. On n'est pas égaux par rapport à la souffrance, mais égaux par rapport à la mort, par contre. Eh bien, ces personnes-là détruisent parfois leur vie et celle de leur entourage, parce que, imaginons, je connais un cas précis auquel je pense à l'instant même où je parle, de personnes comme ça qui ont perdu un être cher, comme un mari ou un enfant, par exemple, ou une femme, une épouse, eh bien, ne sont pas présents pour le reste de la famille. Et là, ils sont complètement déstabilisés, ils déstabilisent l'entourage complètement. Eh bien, ils sont sur le fil d'Ariane, on va dire. Et malheureusement, ça entraîne aussi les proches à côté, dans le désarroi et la souffrance aussi. Alors qu'eux ont peut-être plus de force, peut-être, pour avancer. C'est possible.